Hey, aujourd'hui, on a vraiment l'occasion d'entendre le témoignage de deux personnes qui vont se faire baptiser. C'est toujours une joie de voir des gens et entendre des gens qui se font baptiser. Toujours édifiant de voir comment des gens sont venus au Seigneur Jésus-Christ, comment ils ont découvert le beau message de l'Évangile. Ce message de l'Évangile qui circule, qui se propage à travers le monde entier depuis l'époque du Nouveau Testament. Imaginez. Et l'apôtre Paul, c'est parce que c'est un message important, capital, salutaire même, comme disait Jésus qui nous confie cette mission de pouvoir répandre le beau message de l'Évangile. Et comme on voit dans le livre des Actes, Jésus est le seul nom sous le ciel par lequel on peut être sauvé. Donc, c'est majeur de répandre ce beau message de l'Évangile. Et une des personnes clés vraiment dans l'expansion et la distribution de l'Évangile à l'époque du Nouveau Testament est l'apôtre Paul. C'est une des personnes qui a voyagé plusieurs milliers de kilomètres pour répandre ce beau message de l'Évangile. On a eu l'occasion de le suivre à travers ses voyages, à travers les 20 premiers chapitres du livre des Actes, alors qu'il propage et qu'il implante des églises pour faire connaître le nom de Jésus-Christ. Il y a eu de beaux moments, de grands moments, et c'était particulièrement vrai pour Paul qui était en mission de répandre ce beau message. C'est un voyage qui a duré plus de 4 ans, de près de 5000 kilomètres, parfois à pied, parfois en bateau. Alors, qu'est-ce qui pouvait bien motiver l'apôtre Paul à se consacrer, à s'investir autant sa vie pour répandre ce beau message de l'Évangile? Mais il y avait deux choses, deux motivations. La première, c'était son amour pour les gens. Il voulait vraiment que les gens découvrent le beau message de Jésus-Christ. Paul a déjà fait plusieurs villes au cours de ses voyages missionnaires. Et on arrive à un moment où Paul veut retourner chez lui à Jérusalem. Il a présenté le message de l'Évangile à plusieurs non-juifs dans toute la région, mais voilà que maintenant, il veut retourner dans sa ville à Jérusalem pour communiquer le beau message de l'Évangile à la communauté juive. Les Juifs qui refusaient Jésus, qui ne voulaient rien savoir de Jésus-Christ, mais il les avait à cœur. Alors, il voulait vraiment retourner à Jérusalem, faire un dernier voyage ou aller retrouver sa ville pour leur répandre ce beau message de l'Évangile, malgré que ce sont les Juifs qui mettaient souvent des bâtons dans les roues au ministère de Paul, il veut quand même retourner à Jérusalem pour leur faire découvrir Jésus-Christ et le message de l'Évangile. Vous savez, ça faisait des siècles que l'Ancien Testament annonçait la venue du Messie, Jésus-Christ. Alors, il veut leur faire découvrir que Jésus est le Messie, le Sauveur tant attendu. Une autre motivation vraiment qui poussait Paul à retourner à Jérusalem, c'était son amour pour l'Évangile. Ce beau message de l'Évangile. Vous savez, l'Évangile veut dire la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la suivante. Il y a Dieu, il est parfait, nous ne sommes pas parfaits, et parce qu'on n'est pas parfait, qu'on est imparfait, on est pris. Et la Bible dit qu'on est perdu dans nos péchés. Mais Dieu a envoyé son Fils, qui est parfait, et il est allé à la croix prendre notre place, il est allé mourir à notre place sur la croix pour payer pour nos péchés, et il est ressuscité le troisième jour, comme il l'avait prédit, confirmant donc que Dieu acceptait son sacrifice parfait pour nos péchés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus n'a pas seulement payé pour nos péchés qu'on a fait dans notre vie, mais il nous a purifiés si bien qu'il peut vivre maintenant en nous. Le Saint-Esprit habite maintenant en tous ceux et celles qui ont Jésus dans leur vie. Il n'est pas seulement avec nous, mais il vit en nous. Et c'est ça le magnifique message de l'Évangile. Et c'est ce qui incite Paul à retourner chez lui à Jérusalem. Il veut donc apporter ce message de l'Évangile dans la communauté juive. Alors qu'il est en chemin pour retourner chez lui, on va prendre la lecture dans Actes 21. Et vraiment, je vais vous lire un très court verset. On va commencer par un court verset, mais on va passer à travers quand même quelques versets. Mais je veux juste nous mettre dans le contexte. Alors, Actes 21, si vous avez l'occasion de lire et suivre avec moi, on va lire 4 mots. Actes 21, 1, qui dit ceci. « Après nous être séparés. » On arrête là, d'accord? « Après nous être séparés. » Séparés de qui? Bien, Paul parle de sa visite à Éphèse. Il a passé quelque temps là-bas, alors qu'il les quitte, les sœurs, les frères se sont tous amassés autour de lui. Ils ont prié pour lui et lui ont dit au revoir. C'était un revoir déchirant. C'est difficile de dire au revoir, particulièrement quand tu as aimé des gens Et vous savez, l'amour, c'est plus de dire « Ah, moi, j'aime tout le monde ». Non, l'amour, il y a des sacrifices à faire dans l'amour. Sacrifice, et tu t'investis dans la vie de d'autres personnes, généreusement d'ailleurs. Et ici, on parle de 3 ans, donc c'est un déchirement et pour Paul et pour la famille de Dieu, les frères et les sœurs. Ces chers chrétiens ne veulent pas que Paul les quitte. Paul est important pour eux et ils sont importants pour Paul. Et l'un des 7 compagnons de voyage de Paul, qui est aussi l'auteur du livre des Actes, s'appelle Luc, c'est un médecin, c'est lui qui écrit le livre, nous informe ce qui suit. Alors, il va dire on recommence au verset 1 jusqu'au verset 3. « Après nous être séparés, nous avons pris la mer pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à bord et sommes partis. » Arrivé en vue de l'île de Chypre, nous l'avons laissé à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie pour débarquer à Tyr. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison. Moi, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse avant de continuer la lecture ici, puis dire, souligner un petit détail, de voir l'exactitude de la Bible. On dit souvent que la Bible est inspirée de Dieu, qui a un auteur divin derrière ce livre, magnifique livre, que Dieu a inspiré littéralement dans l'original, ça dit insouffler les mots aux auteurs, aux écrivains humains. Dieu s'est servi miraculeusement d'auteurs écrivains, plus de 45, et il les a inspirés mot à mot les Écritures saintes. Maintenant, c'est un miracle. Maintenant, il y a plusieurs évidences qui démontrent l'inspiration de la Bible. Laissez-moi vous en souligner. On en donne parfois de temps en temps, mais laissez-moi vous en souligner un. Ce livre n'est définitivement pas un fable ou un conte de fées. Il y a trop d'exactitudes, il y a trop de détails. Là, je peux donner un exemple. L'auteur du livre des Actes, c'est un médecin, c'est Luc, un homme brillant. Alors qu'il est sur le bateau, alors qu'il fait ses voyages, alors qu'il est sur les sentiers, il prend des notes, écrit en détail le nom de chaque ville et vraiment détaillé. Juste pour donner un exemple, à travers ses écrits, Luc écrit, donne le nom de 32 pays, il les nomme, il nomme 54 villes, 9 îles différentes, il nomme également le nom de 95 personnes, il donne le nom de leur position aussi qu'ils ont dans l'Empire romain. Alors, c'est des mots exacts, des mots tels que tu regardes en arrière, tu fouilles l'archéologie, c'est exactement les termes qu'on va retrouver dans les écrits de l'époque. Beaucoup d'exactitude, il donne les noms et les titres des gens, même que ce soit des leaders dans l'Empire romain, que ce soit des leaders dans la synagogue, que ce soit des leaders dans l'Église. Beaucoup de détails. Le livre des Actes est l'un des plus grands manuscrits archéologiques de toute l'histoire. Si vous voulez retourner en arrière et cartographier le monde antique, vous pourriez commencer par le livre des Actes. Si vous voulez retourner, je veux dire, la façon dont Luc écrit sur un voyage qui est d'environ 240 kilomètres, il nomme les ports, les villes, les îles, tout ce qu'il rencontre en détail. Maintenant, continuons au verset 4 qui dit ceci. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Poussés par le Saint-Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. C'était des gens qui aimaient beaucoup l'apôtre Paul. C'était ses amis, c'était des gens qui vraiment, auxquels Paul s'était vraiment investi. Ce sont des enfants de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu qui aiment le Seigneur Jésus. Ils veulent le bien de Paul. Et là, ils disent à Paul, « Paul, où est-ce que tu t'en vas? L'Esprit nous a dit ce qui t'attend là-bas à Jérusalem. Si tu te rends à Jérusalem, tu vas souffrir, tu vas te faire arrêter, ça va être difficile, ça va être de la persécution. Arrête ton voyage. On connaît ton cœur, mais tu dois changer ton plan. Tu ne peux pas te rendre là-bas à Jérusalem. Ce ne sera pas bon pour toi. Même si tu aimes ton peuple, même si tu aimes la bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas le temps d'aller à Jérusalem. » Continuons la lecture, verset 6. Puis, mais on peut recommencer au verset 5. « Mais une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et les enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Puis après avoir pris congé les uns des autres, Nous sommes montés sur le bateau tandis qu'ils retournaient chez eux. Mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et sœurs et passé un jour avec eux. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept, et nous avons logé chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom de Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit, « Voici ce que je déclare, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. En attendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il a répondu, « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Maintenant, ils se sont rendus jusqu'à Césarée, c'est tout près de Jérusalem. Alors, Paul est presque arrivé à Jérusalem. Il va rester chez Philippe. Vous savez, Philippe, c'est celui qu'on a vu au début des Actes. C'est un évangéliste. C'est lui qui avait partagé l'Évangile à un Éthiopien. Il l'avait baptisé, tout ça. Et c'est celui qui faisait partie aussi des sectes, ce qu'on pourrait peut-être considérer comme des diacres, dans Actes 6. Alors, il va chez Philippe. Il a quatre filles qui partagent la parole de Dieu. Elles sont prophètes. Elles prophétisent. Et là, après un certain temps, il y a un nom de Agabus qui va chez Philippe retrouver Paul et son équipe. Agabus avait déjà prédit la famine, qu'une famine arriverait, c'est arrivé. Donc, t'écoutes un gars comme ça, c'est un gars sérieux, là. Il prend la ceinture de Paul, s'attache les pieds et les mains et dit, « Voici ce qui t'attend à Jérusalem, Paul. » Et c'est à ce moment-là que Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, et les autres disciples, en mission avec eux et avec Paul, et les chrétiens de Philippe, alors toute la gang, ont supplié Paul de ne pas aller à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'on voit? Paul ne se laisse pas persuader. Et là, après quelques temps, ils sont allés à Jérusalem. Maintenant, c'est le troisième voyage de Paul, et tout le long du chemin vers Jérusalem, les chrétiens n'arrêtent pas de lui dire de ne pas aller à Jérusalem. Et pourtant, Paul va rester ferme. Il est entêté. Êtes-vous entêté, vous autres, des fois? Ah ouais, je vois de la femme. Ta femme a dit oui. Elle a fait un signe comme ça. Elle a dit oui. Mon mari est entêté. Mais ça nous arrive d'être entêté. Mais moi, ce que j'aime, c'est de voir des gens qui sont entêtés pour le Seigneur. Amen. Il y a des gens, mon ami, que quoi qu'il arrive dans leur vie, ils vont avoir des épreuves, des échecs, mais ils restent fermes à suivre et à faire la volonté du Seigneur et à lui obéir. J'ai rencontré justement une femme comme ça cette semaine. C'était tellement touchant. Mon ami, on avait le cœur brisé, il nous racontait sa vie, son passé, tout ça. Elle a eu tellement de souffrances dans sa vie, tellement d'épreuves incroyables. On pourrait faire un film, c'est incroyable. Mais cette femme est déterminée à être fidèle, à marcher avec le Seigneur. Et c'est vraiment beau de voir ça, être entêtée pour Dieu. Ça, c'est glorieux, ça. Maintenant, on aime voir des gens entêtés pour le Seigneur Jésus. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que tout le monde dit à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Maintenant, on parle d'hommes et de femmes de Dieu, là, des gens consacrés, des gens remplis du Saint-Esprit, et ils disent à Paul, « Tu t'en vas pas là! » Des femmes et des hommes de Dieu. Et pourtant, Paul tenait à y aller. Sa motivation et son amour pour les gens et pour l'Évangile le poussaient, l'incitaient à se rendre à Jérusalem. Et son souci, c'était le progrès de l'Évangile, les avancées pour le royaume de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ, de voir de plus en plus de personnes devenir à Jésus-Christ. Maintenant, Paul est entouré de femmes et d'hommes qui disent exactement le contraire de lui. Quand on regarde le contexte, on comprend que Paul ne va pas contre le Saint-Esprit, au contraire, il va avec l'Esprit. Il dira même qu'il a été lié par le Saint-Esprit à se diriger à Jérusalem. Maintenant, ça nous emmène à nous poser une question ici. Comment découvrir qui on est vraiment? Car une fois qu'on sait qui on est vraiment, on sait ce qu'on est censé faire, où le faire et comment le faire. Comment découvrir qui je suis vraiment? Pourquoi je suis là? Quel est mon but dans la vie? On voit Paul aller contre l'avis de ses amis, même ses disciples, ses églises et les autres leaders spirituels. Même Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, dit « Nous avons essayé de lui faire changer d'idée ». Même Luc, hey, Luc, c'est le gars qui a écrit l'Évangile de Luc, là. C'est un homme de Dieu. Il essaie de convaincre Paul de faire changer d'idée et de ne pas aller à Jérusalem. Acte 20, verset 3. Alors, quand on recule un petit peu en arrière, on retourne dans le chapitre 20. Paul se rend en Grèce, où il séjourne 3 mois. Il était sur le point d'embarquer pour la Syrie, mais comme des Juifs formaient un complot contre lui, il décide de changer son plan et de repartir par la Macédoine. Maintenant, Paul apprend que des Juifs veulent le tuer. Il veut prendre le bateau pour se rendre en Syrie, mais étant donné qu'il y a des gens qui veulent le tuer, là, il réfléchit, puis il décide de changer son plan et de faire un détour. Maintenant, ce qu'on voit chez Paul, donc, c'est qu'avoir la foi, c'est pas être stupide. C'est un gars réfléchi, là. Alors, il utilise sa sagesse. Il dit, OK, il y a des gens qui veulent me tuer, alors je vais faire un détour, je vais changer mon plan. La foi en Dieu ne dit pas, hey, il y a des gens qui veulent me tuer, attends-toi, attends un peu, on va aller voir s'ils vont être capables de me tuer. C'est pas ça, là. C'est pas ça qu'on voit chez Paul. La foi dit plutôt, OK, ils veulent me faire du mal, OK, je vais prendre un autre chemin. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. Verset 13, un peu plus loin, chapitre 20. Quant à nous, alors c'est Luc qui parle, qui est l'auteur, nous avons pris les devants pour embarquer sur un bateau à destination d'Assos. Nous devions y reprendre Paul, conformément à ses instructions, car il voulait faire la route à pied. Lorsqu'il nous a rejoints à Assos, nous l'avons pris à bord et nous sommes allés à Mytilène. Maintenant, Paul décide de faire une bonne partie de son voyage à pied. Est-ce qu'il y avait une menace pour le tuer? Absolument pas. Il dit à ses compagnons, « Je vais vous retrouver plus loin. » Alors, il prend une marche, une méchante marche, une marche de 3 jours, 50 kilomètres. Maintenant, on ne sait pas pourquoi, on a juste cette phrase-là qui dit, « Il voulait faire la route à pied. » Un petit détail. Paul a fait face à de l'opposition 3 fois au cours de ses 12 ans de voyage missionnaire, puis il réalise que certaines personnes veulent vraiment le tuer. Et plus il s'approche de Jérusalem, plus la pression monte, et il réalise ce qu'il doit faire. Je pense que Paul savait que s'il restait auprès des gens qui l'aimaient autant, et il l'aime beaucoup, il l'empêcherait de se rendre à Jérusalem. Il y aurait beaucoup de pression. Paul avait besoin d'être seul avec Dieu. Il décide de partir tout seul. Maintenant, Paul ne partait jamais seul. C'est vraiment un cas isolé où il s'en va tout seul, passer 3 jours à prendre une marche, marcher, puis se rendre 50 kilomètres parce qu'il avait besoin d'être seul avec Dieu. Et vous savez quoi? C'est ce qu'on a besoin. C'est vraiment dans ces moments où nous sommes seuls avec Dieu, où Dieu nous redonne la force de poursuivre sa mission. Voyez-vous, si sa motivation était son amour pour les gens et son amour pour l'Évangile, il avait besoin de trouver ce qui était le mieux pour le royaume. Pas ce qui était mieux pour lui, ce qui était mieux pour le royaume de Dieu. Et après que le bateau ait fait la route et s'est rendu à bon port, c'est là qu'il rencontre les chrétiens à Éphèse. Et c'est vraiment touchant, chapitre 20, verset 22. Et c'est Paul qui parle, et voici ce qu'il dit. Il dit, « Maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance. Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu de qui j'ai passé, en prêchant le royaume de Dieu. » Paul leur dit, je m'en vais à Jérusalem. C'est l'Évangile qui me pousse. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais une chose, mon ami, ça ne sera pas drôle, ça ne sera pas bon. Dans chaque ville que j'ai traversée, j'ai entendu parler d'emprisonnement. Dans chaque ville que j'ai traversée, on m'a dit de mauvaises choses qui m'attendent à Jérusalem, mais j'y vais quand même. Et j'en suis tellement convaincu que je dois vous dire que vous ne me verrez plus jamais. T'es vraiment convaincu, là? Oui, on sait vraiment ce qui s'est passé pendant ces 3 jours-là, mon ami. Il s'est vraiment donné au Seigneur et il s'est rapproché de Dieu, s'est donné à Dieu. Il avait besoin de ce temps seul avec Dieu pour se remettre sur le bon chemin. D'ailleurs, c'est ce que Jésus faisait. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé son ministère dans Marc 1, et qu'est-ce qu'on voit? Il s'en va s'isoler, puis il s'en va prier tout seul. Il s'en va tout seul. À un moment donné, la foule arrive et tout seul s'approche. Alors, les disciples vont voir Jésus, puis ils disent à Jésus, « Jésus, c'est plein de monde qui t'attendent. C'est plein de gens là, qui attendent à la porte. Là, puis ils ont besoin de guérison, besoin de miracles et tout ça. » Et vous savez ce que Jésus, après avoir prié, dit? Il dit, « Non, non, il dit, on va aller ailleurs. » « Quoi? Ailleurs? » Jésus va dire, il y a des gens qui entendent le message de l'Évangile. Et on va aller ailleurs. On va plutôt apporter le message de l'Évangile. Alors, comment Jésus était-il si certain qu'il n'était pas supposé répondre à tous ces besoins des gens qui étaient là, qui attendaient à la porte pour le voir? Bien, parce que très tôt le matin, il était seul avec son Dieu. Il savait qui il était et ce qu'il devait faire. C'est la même chose pour Paul. On ne voit jamais Paul voyager tout seul, mais il part là pendant ces 3 jours pour être seul avec Dieu. Maintenant, parce qu'il sait, que ses amis vont essayer de mettre de la pression qu'il n'y aille pas à Jérusalem, parce qu'il l'aime, et je peux comprendre ça. Imagine tes parents. Tes parents, là, et ta fille vient te voir de 21 ans pour te dire, « Savez-vous, moi, j'ai vraiment à cœur d'aller dans un territoire, le Seigneur m'appelle, je suis convaincu, le Seigneur m'appelle d'aller dans un territoire qui est dangereux. » Mais le Seigneur m'appelle à aller là pour présenter le message de l'Évangile. Comme parent, qu'est-ce que tu ferais? Je connais d'autres endroits, tu sais, comme Gatineau, c'est moins pire, tu sais, c'est comme... Non, tu peux servir le Seigneur là-bas et tout ça, tu sais. Alors, je peux comprendre ça comme parent. Je peux comprendre des gens qui t'aiment, qui veulent te protéger de la souffrance. Ces gens-là aiment Paul, mais ils veulent pas qu'il souffre. Alors ça, c'est normal. On comprend ça. Il est devant ses meilleurs amis. Et il y a verset 4 qui dit, « Poussé par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Il n'y a pas question d'avoir un ordre de Saint-Esprit qui dit de ne pas y aller, là, parce que Paul vient de dire qu'il a été lié par l'Esprit-Saint pour se rendre là-bas. Non, je pense que l'idée, c'est juste, la signification de ça, c'est que le Saint-Esprit a révélé ce qui attendait Paul, tout comme Agabus, même chose. Parce que la mission de Paul à Jérusalem lui a été confiée par le Seigneur Jésus lui-même. Alors, au chapitre 20, Paul dit que c'est Jésus qui lui a confié cette mission. Maintenant, c'est dur pour Paul. Les chrétiens le suppliaient de ne pas partir. Il restait juste 7 jours à Tyr, et pourtant, quand il part, qu'est-ce qu'on voit? Tous, femmes, les enfants, tout le monde se sont amassés autour de Paul pour prier pour lui, sont mis à genoux et prier avec lui. Il l'aimait. Maintenant, j'aurais bien aimé entendre leurs prières. Vous savez, je ne sais pas, est-ce que des fois tu passes des messages à travers tes prières? Seigneur, montre à Julie que tu m'as montré qu'elle était pour être ma femme. Tu sais, Julie n'est pas loin, tu sais. Montre-lui, Seigneur. Seigneur, on aime Paul, c'est un homme de Dieu, et on sait qu'il est un consacré, mais Seigneur, il est en train vraiment de faire une erreur. Tu vois tous les frères et les sœurs, Seigneur. Montre-lui, raisonne-le, Seigneur. Hey, ça ne doit pas être facile. J'imagine même que certaines des prières devaient être un petit peu agressives. Parce que quand tu as beaucoup d'affection, apparemment, on se fâche plus envers les gens qu'on aime le plus. Parce qu'il y a un lien tellement fort d'amour, d'intimité. Là, quoi, t'sais. Alors, moi, je pourrais présumer qu'il y aurait peut-être un petit peu de colère, même un peu dans les prières. Ça devait être tellement déchirant pour Paul. Parce qu'il les aimait, puis il sait que c'est par amour qu'ils veulent pas qu'il les quitte. Et puis, c'était pas fini. Il a subi davantage de pression à Césarée, comme on le voit dans les versets qu'on a lus, versets 7 à 12. Ce qu'on voit, c'est que ce sont des gens qui aiment Paul, qui essaient de dissuader. Même l'auteur des Actes, imagine-toi là, même Luc, il l'a dit. Il dit, on a essayé de le convaincre de ne pas y aller. Mais Paul ne se laisse pas influencer. Comment faire pour que toi et moi arrivions à un point où on sait qui on est et ce qu'on est censé faire? Cette conviction où tu dis, je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis ici, je sais quelle est ma raison d'être. Il m'arrive de rencontrer des gens parfois, puis des gens me disent, Normand, je ne sais vraiment pas, moi, qu'est-ce que le Seigneur s'attend de moi, je veux faire sa volonté et tout ça, mais je cherche la volonté de Dieu. Certains d'entre nous ont des décisions, on a des décisions difficiles à prendre. Parfois, on se demande quelle est la volonté de Dieu, mais parfois aussi, on se demande, est-ce qu'on va être capable d'accomplir cette volonté-là? Et l'histoire de la lutte de Paul nous donne des indications pas mal utiles sur la manière de ne pas dérailler en suivant les directives de Dieu à notre égard. Alors, comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Comment connaître ma raison d'être? Bien, on ne saura jamais qui on est vraiment jusqu'à ce qu'on sache à qui je suis réellement. D'accord? La différence est très importante entre qui je suis et à qui je suis. Dès le moment où tout est à propos de moi, bien, je deviens le centre de mon univers. J'essaie de bâtir mon royaume. Mais quand je découvre à qui j'appartiens, à qui je suis, le Seigneur Jésus, à partir du moment où je comprends cette vision chrétienne de l'abandon, c'est-à-dire de m'abandonner à Dieu, de laisser contrôler ma vie, je ne suis plus le centre de mon univers. Ce n'est plus une question de moi. Le Seigneur Jésus a ma vie entre ses mains. Ça semble contradictoire, mais c'est là que se trouve la vraie liberté. Oui, vraiment, on peut penser que d'abandonner notre vie au Seigneur Jésus va nous rendre prisonniers et ça va être étouffant. Mais c'est le contraire qui arrive. C'est là que se trouve la vraie liberté. Maintenant, il y a des gens qui trouvent que la vie chrétienne est étouffante. Et j'avoue, des fois, c'est plus de notre faute, nous, les chrétiens, parce qu'on met tellement de lois, de règles, de ci, de ça, fais ci, fais ça, puis tout ça. Malheureusement, c'est un peu comme ça. J'étais chrétien de première génération au Québec. Là, il y a eu tout un réveil, comme je le disais, l'expliquait l'autre jour. Il y a eu des 475 églises qui ont commencé en l'espace de quelques années. On était en 8 ans, l'espace de 8 ans. Il y a tellement de gens qui se sont convertis, tout ça. Puis, on ne connaissait pas beaucoup les Écritures. Alors, on voulait bien faire. On aimait le Seigneur. On voulait. Alors là, on t'élève tes enfants, puis tu es rigide. Il ne faut pas que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Puis, tu as ta grosse liste de vie chrétienne, etc. Là, c'est sûr qu'à quelque part, c'est comme étouffant. Là. C'est comme tu glisses comme dans une religion. Là. C'est plus le christianisme tel que les Écritures l'enseignent. Et ça a étouffé plusieurs personnes au Québec. Mais c'est des erreurs, il y a beaucoup d'erreurs qui se sont glissées là-dedans. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'équipe pastorale a décidé de commencer une nouvelle série en septembre, une mini-série qui va s'appeler « Éveil à la grâce ». Parce qu'on veut justement essayer de corriger toutes ces choses-là, redécouvrir la grâce telle qu'elle est enseignée et révélée dans les Écritures saintes. Et on espère, et c'est notre prière, et je vous invite à prier pour ça, qu'à travers cette série, il y ait des guérisons. Et même une sœur qui me partageait ça exactement cette semaine, que depuis qu'elle vient ici, depuis qu'elle vient ici, depuis qu'elle entend les messages, elle découvre la grâce et ça lui fait tellement du bien, ça le guérit des blessures. C'est une femme qui a plusieurs années dans le Seigneur. Il y a une guérison qui a eu lieu, s'est opérée dans son cœur à découvrir la beauté, la richesse de la grâce qui se trouve dans les Écritures. Il y a tellement de liberté à s'abandonner au Seigneur. Pour l'apôtre Paul, le plan de Dieu était plus important que son propre plan. En fait, le plan de Dieu pour Paul représentait une priorité supérieure à toute autre chose ou à toute autre personne. Et ce genre d'abandon nous procure beaucoup de joie. S'abandonner à la bonté de Dieu. C'est là que se trouve la vraie liberté. Car lorsque tu remets tout à Dieu, tu n'as plus vraiment la moindre raison d'entretenir d'inquiétude puisque c'est lui qui s'occupe de ta vie. Il a ta vie entre ses mains. Regarde Paul. Il sait qu'il va souffrir à Jérusalem, mais regarde son assurance. Il dit au verset 12, en entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors, il a répondu, « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. » On pourrait se dire, mais pourquoi Paul, tu vas dans la gueule du lion, voyons donc, c'est inutile, tu vas perdre, c'est comme, tu serais beaucoup plus utile à rester ici, alors que là, tu t'en vas à Jérusalem, tu vas te faire mettre en prison, tu vas être lié, tu ne pourras pas rien faire, tu ne seras pas utile. À quoi ça sert? Bien, j'aime cette parole de Oswald Chambers dans son livre de méditation quotidienne, « Tout pour qu'il règne ». Il dit, « Remarquez que Dieu semble parfois gaspiller ses serviteurs. » Au point de vue humain, il les place à des endroits où ils semblent inutiles. Nous disons, Dieu me veut ici parce que je suis tellement utile. Mais Dieu place ses serviteurs là où ils pourront le glorifier. Et nous n'avons pas à en juger nous-mêmes. Il sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Quand j'abandonne ma vie au Seigneur Jésus, je découvre que ce ne sont pas mes problèmes, mais les siens. Parce que je suis à lui. que mes problèmes soient gros ou petits, ce ne sont pas mes problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moi, mais le Seigneur. Je trouve ma valeur en sachant à qui je suis. Je ne suis pas ce que le monde me dit. Je n'ai pas besoin de passer mon temps à voir et essayer de sonder le terrain. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Non. Ma valeur est en le Seigneur Jésus-Christ. Regarde ce que le Seigneur dit dans Jérémie 1. Il dit, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Éphésiens 2, 10, il dit, « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin qu'on puisse les accomplir. » Ce que ça dit, c'est que c'est Dieu qui t'a fait, c'est lui qui t'a tricoté ensemble dans le ventre de ta mère. Tu as un but, tu as une identité, une signification, tu es l'œuvre de Dieu. Et dans l'original, ça dit dans Éphésiens 2, nous sommes le poème de Dieu, sa création. Paul savait à qui il appartenait. Pour Paul, il se disait, tant que je fais sa volonté, je n'ai pas à me casser la tête avec ce qui va m'arriver, je sais où je vais et je sais ce qui m'attend. Ça ne sera pas bon pour moi, hein? Mais je sais que ça va être bon pour le royaume de Dieu. Ce sera bon pour l'Église de Jésus-Christ. Vous ne réussirez pas à me faire changer d'idée. Alors, comment connaître la volonté de Dieu pour notre vie? Bien, on ne saura jamais qui on est vraiment jusqu'à ce qu'on sache à qui nous sommes réellement. Aussi, on ne saura jamais qui on est vraiment jusqu'à ce qu'on sache pourquoi on est réellement ici. T'es-tu déjà posé la question? On va dire c'est la question existentielle. Pourquoi tu es ici, toi? Pourquoi Dieu te laisse en vie en ce moment-là? Pose-toi la question. Pourquoi tu existes? Tant qu'on ne sait pas pourquoi on est ici, on ne connaît pas notre raison d'être, notre but, notre signification, on ne connaît pas notre place. Tu as besoin de savoir pourquoi tu es ici, parce que ça te donne un rôle, un but, une position dans cette famille qui est incroyable, qui est merveilleuse dans l'Église de Jésus-Christ. Quand je sais pourquoi je suis ici, je peux dire, voici pourquoi j'ai été créé. Voici mon rôle, c'est l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a appelé. J'ai été créé pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Pense-y, Dieu t'a formé, t'a créé, il t'a préparé, t'a équipé. Il t'a préparé une œuvre, une belle œuvre afin que tu accomplisses. Moi, je ne peux pas accomplir l'œuvre que Dieu a préparée pour toi. C'est toi, ça. Il t'a donné des dons, des talents pour accomplir cette œuvre-là. Dieu nous a préparés pour assumer un rôle pour son royaume de Dieu. Si je prends des décisions dans ma vie, ces décisions sont basées sur quoi? Sur moi, mon confort, ma prospérité, mon succès, ce qui est bon pour moi. Toute ma vie tourne autour de moi. Mes prises de décision, donc, seront prises en fonction de ce qui est bon pour moi. Mais dès l'instant que je suis sérieux d'être un disciple, la seule façon d'être un disciple qui marche avec Jésus, c'est de suivre Jésus. C'est qu'il soit maître de ma vie et je suis sa volonté. Vois-tu, dès le moment où je réalise cela, ma façon de prendre des décisions va changer. Ce n'est plus une question de ce qui fait mon affaire ou encore mon confort. Tout est en fonction de ce qui plaît au Seigneur. Quel rôle le Seigneur m'appelle-t-il à assumer? Quel rôle le Seigneur t'appelle-t-il à assumer? Trouver sa raison d'être, ça fait toute la différence. Quelques questions qui pourront peut-être t'aider. Qu'est-ce qui te passionne? Quels sont tes dons, les dons de l'Esprit? Tu as reçu des dons de l'Esprit, une capacité divine pour accomplir l'œuvre de Dieu que Dieu a préparé d'avance pour tes accomplices. Tu ne sais pas quels sont tes dons? Fais juste servir. Sers. Tu vas voir des gens autour de toi vont repérer, vont dire, « Hey, toi, vraiment, tu as un don dans tel domaine. » Toutes ces choses ont été placées en nous, cette patience qui nous emballe, les dons, tout ça, toutes ces choses ont été placées en nous afin qu'on puisse accomplir cette belle œuvre que Dieu a préparée. Ça fait une méchante différence pour le royaume de Dieu et pour ta raison d'être et ta valeur. Maintenant, il y a deux embûches qui vont se dresser pour te détourner de la volonté de Dieu. La première, c'est lorsqu'on se soucie plus de suivre les chrétiens que Jésus. J'ai dit les chrétiens, mais dans le fond, ça pourrait être ta famille, ça pourrait être des amis, des collègues de travail, ça peut être la culture, tu peux te laisser influencer par la culture, puis ça va te détourner tranquillement de la volonté de Dieu. Quand on est plus préoccupé de suivre les gens autour de nous que de suivre Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer ces gens-là avant Jésus. Et on le voit dans le passage ici, c'est ça que les gens veulent faire, sans s'en rendre compte. C'est des gens bien intentionnés qui aiment beaucoup l'apôtre Paul. Mais imaginez si Paul les avait écoutés. Il se serait éloigné carrément de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour lui est qu'il aille à Jérusalem annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais Paul dit non. Et je sais à qui j'appartiens, je sais pourquoi je suis ici. C'est d'aimer les autres en leur offrant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je sais que ça va aller mal. Mais c'est ça que le Seigneur m'appelle à faire, à accomplir. une autre raison, c'est une autre embûche qui peut se dresser parfois. C'est lorsque je me soucie plus de mon confort, mon succès, que d'obéissance. Oui, il y a un danger, il y a une embûche qui peut se dresser, c'est si je fais passer les autres avant moi. Et c'est arrivé, j'entends des gens des fois, un homme qui me racontait qu'il était déjà allé dans une de nos églises, il avait tellement aimé ça, c'est pas un chrétien, il avait tellement aimé ça, il dit, moi je suis d'accord avec tout ce qui s'enseigne là. Alors j'ai demandé, OK, t'as arrêté d'aller là? Oui, parce que ma mère était contre le fait que j'y aille. C'est une personne qui était assez âgée. Elle dit, ma mère était contre le fait que j'y aille. Alors quand elle est décédée, j'ai cessé d'y aller pour honorer ma mère. Maintenant, moi, je suis pour ça, 100%. Honorer les parents, c'est Dieu veut ça, ça fait partie des 10 commandements. Mais lorsque je dois choisir entre Jésus et mes parents, même ceux qui m'aiment, là, je fais vraiment une gaffe, une erreur, m'éloigner de la volonté de Dieu. Alors, une autre embûche, c'est lorsque j'essaie de poursuivre mon confort, mon succès, plutôt que de l'obéissance. Et c'est probablement ce qui nous guette le plus ici. Nous vivons dans un style, dans une culture qui nous incite à en vouloir plus, toujours plus. Il y a tellement de publicité, tout ça, à en chercher plus. Hey, j'ai vu une toilette cette semaine, 5, juste la toilette, 5 millions de dollars. Nick, dans ta maison, là, tu peux installer ça, là, 5 millions de dollars. Puis apparemment, ce n'est pas la plus chère. Il y en a des plus chères que ça. Écoute, on vit dans une société, mais c'est rendu là, comme c'est farfelu. Là. Le luxe, là, la beauté, tout ça, c'est comme wow! Mais alors, on vit dans cette culture-là, donc c'est un danger qui nous guette tranquillement de se laisser influencer. Moi, j'aime le beau, puis c'est super, c'est tellement beau. C'est Dieu est créatif, la création est belle. C'est pas, le problème n'est pas là, c'est ne pas se laisser, finalement, apprivoiser ou influencer, à nous éloigner de ce que Dieu veut pour notre vie à cause de cela. C'est comme quelqu'un, c'est comme la parole a dit, c'est l'amour de l'argent qui n'est pas correct. C'est pas l'argent, tant mieux si tu en fais beaucoup. Mais c'est l'amour de l'argent qui peut nous détourner vraiment de la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés, rappelons-nous, vous et moi, à qui on appartient? À qui t'appartiens? Rappelle-toi de ça. C'est l'apôtre Paul qui a dit dans Galates, hein, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » À qui t'appartiens et pourquoi tu es ici? J'inviterai Dominique à venir maintenant et on va juste se courber pendant qu'il avance. Pour prier. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole et te remercier pour ceux et celles qui se font baptiser aujourd'hui. Merci d'avoir touché leur vie et d'avoir touché nos vies. Merci pour le beau message de l'Évangile qu'on veut répandre partout, Seigneur. En ton nom, pour ta gloire. Amen.